La danse des mots. Yvan Amar.
Bonjour, la danse des mots au théâtre, la danse des mots à l'Odéon aujourd'hui, puisque jusqu'au 10 mars, on pourra y voir l'une des pièces les plus célèbres du répertoire, c'est le Macbeth de Shakespeare. C'est pas la pièce la plus montée de Shakespeare, mais quand même, on aura tous une petite idée. Une idée qui se renouvelle avec le temps, surtout si, avec cette mise en scène, on a un nouveau texte et une nouvelle traduction. C'est le cas avec cette mise en scène de Stefan Braunschweig, dont on va parler aujourd'hui avec lui et avec Adama Diop. Bonjour à tous les deux, merci de venir nous parler donc de Macbeth, dont vous proposez, Stefan Braunschweig, avec cette mise en scène à l'Odéon, un texte nouveau. Dès que vous avez décidé de monter Macbeth, vous vous êtes dit, il faut une nouvelle traduction, parce que il y en a déjà beaucoup, il y en a qui sont vieilles, bien sûr, on pense d'abord à François-Victor Hugo, qui est la traduction que un petit peu la plus connue au début du XXe siècle, il y en a eu beaucoup d'autres, notamment parce qu'un certain nombre de metteurs en scène voulaient une traduction qui leur plaise. Alors, est-ce que c'était votre cas? Pourquoi vous appropriez justement ce texte pour cette mise en scène?
Alors d'abord, il faut dire que c'est une traduction qu'on a faite à deux avec Daniel Loaiza, qui est un homme plus de littérature et qui est parfaitement bilingue, donc il pouvait repartir du texte de Shakespeare. Alors, pourquoi faire des nouvelles traductions? C'est toujours un enjeu, en fait, à chaque fois qu'on commence une mise en scène sur un texte du répertoire étranger, la tentation est grande. Et je dois dire que j'y cède souvent, parce que avoir une nouvelle traduction, ça va tout de suite nous permettre d'avoir une fraîcheur dans la façon d'entendre ce texte. Par exemple, sur Macbeth, on a joué beaucoup les traductions de Bonnefoy ou de Jean-Michel Desprats, qui sont toutes les deux très très belles, très fortes. Mais au bout d'un moment, pour nous, les gens de théâtre, elles s'usent. C'est-à-dire qu'on les entend, on les réentend, et puis
c'est le propre aussi de toute traduction de s'user. Voilà, alors que pour les anglophones, le problème est tout à fait différent. Ils ont le texte de Shakespeare qui vieillit, qui s'éloigne d'eux, mais qui restera quand même un texte dans leur langue et qu'on ne va pas changer.
C'est
pour
vrai.
Les Français, chaque traduction vieillit et son vieillissement n'est pas comparable à celui du vieillissement du texte original.
Oui, après, une traduction peut vieillir et ça n'empêche pas qu'on puisse, dans 10 ans, en réutiliser une autre. Et puis, je ne prétends pas du tout qu'on a fait la traduction définitive de Macbeth. Pour une raison très simple, c'est que Macbeth, c'est très très difficile à traduire, honnêtement. C'est une pièce avec des enjeux de linguistique très très difficiles. Par exemple, il y a cette fameuse formule des sorcières au début, fair is foul, foul is fair, c'est intraduisible en fait. Il n'y a pas de mot en français qui nous donnerait toute l'ampleur du lexique qui est sur fair et foul. Est-ce que le juste est injuste, le beau est...
Alors justement, comment l'avez-vous traduit, vous?
Nous, on l'a traduit simplement, c'est-à-dire on s'est dit... Ça va être le beau et laid, le laid et beau, c'est-à-dire les deux valeurs qui se renversent, mais le beau et laid, c'est à la fois esthétique.
C'est plus esthétique qu'éthique.
Alors c'est que les quand deux, il y a la laideur morale, vrai, la beauté morale. Mais par exemple, vous prenez la traduction de Jean-Michel Desprats, le clair est obscur, l'obscur est clair. Là, on n'est pas du tout dans l'éthique. Mm-hmm. On est dans le registre de la pièce, qui est le registre de la nuit, de ce qui se passe la nuit, de la sorcellerie, etc. Vous prenez la traduction de Bonnefoy, le beau est immonde, l'immonde est beau. On est déjà on est sur plutôt la question du monstrueux, de l'horreur. Vous voyez que chaque traduction amène ses propres, ses propres connotations. Et à un moment donné, quand on veut faire le spectacle qu'on a envie de faire, il faut s'y coller. Et ça permet aussi de rentrer dans la pièce. Vous voyez, ayant travaillé 2-3 mois sur cette traduction, et ben quand on commence les répétitions, on est déjà à fond dedans. On est déjà rentré dans les arcanes secrets de la pièce.
Adama Diop, est-ce que vous avez un sentiment semblable? Est-ce que être devant une nouvelle traduction d'un texte, ça vous permet de vous réapproprier ce texte de façon plus intime, plus profonde? Qu'est-ce que ça change pour vous?
Ça change beaucoup parce que, comme vous l'avez dit, Macbeth, c'est la création, je crois que c'était en 1604-1605, donc c'est quand même un texte qui est très très vieux.
Bah, c'est
donc,
un 4 siècles.
C'est oui. Voilà, exactement, c'est un 4 siècles. Et quand on est, par exemple, jeune acteur dans les conservatoires, on travaille les textes de Shakespeare. Donc, par exemple, Macbeth, c'est un des textes que j'ai travaillé au conservatoire. Et le fait d'avoir une nouvelle traduction permet quelque part effectivement de redécouvrir ce texte-là et pas juste d'attaquer quelque chose qui est un petit peu voilà un classique voilà là du coup d'avoir une nouvelle langue il y a quelque chose on se dit tiens c'est une création comme si Macbeth n'a jamais été monté comme si ça n'a jamais été joué et on repart sur quelque chose de neuf et c'est vrai que c'est plutôt agréable d'avoir en bouche quelque chose
donc d'une certaine façon ça nous donne un pas d'avance sur les Anglais qui n'ont pas ça parce que eux quand ils montent Shakespeare bah c'est toujours le même texte
mais pour les Anglais c'est difficile hein, parce que le texte de l'époque pour aujourd'hui il est très difficile à comprendre il est difficile pour nous quand on le traduit mais alors pour eux et avec cette difficulté supplémentaire c'est qu'au théâtre on n'a pas de notes de bas de page on n'a pas de renvoi à la fin du livre et on le dit qu'une fois le texte c'est-à-dire que quand les spectateurs sont là le train passe et il ne repasse pas donc pour nous pour les Anglais c'est difficile et pour nous les traducteurs c'est l'enjeu c'est évidemment que ça puisse percuter au passage du train et pas en attendant de le voir repasser ou en rebobinant le film ou en revenant en arrière. Il faut qu'on comprenne ce qui se dit au moment où ça se dit. C'est évidemment un enjeu de traduction et un enjeu de mise en scène et de jeu parce que c'est le jeu qui fait comprendre.
Alors justement, on va écouter maintenant un court extrait de votre mise en scène avec Lady Macbeth qui vient de recevoir une lettre dont elle lit la teneur.
Elles ont croisé ma route le jour de la victoire. Et j'ai des preuves très certaines que leur savoir dépasse celui des mortels. Je brûlais du désir de les interroger davantage quand elles se sont changées en air et s'y sont évanouies. Alors que cet enchantement m'avait ravi à moi-même, un envoyé du roi est arrivé et m'a souhaité gloire et salut au baron de Cawdor. C'est de ce même titre que ses sœurs fatales m'avaient salué avant de me renvoyer au temps à venir en m'annonçant « Salut, toi qui seras roi !» J'ai jugé bon de te confier tout cela, très cher partenaire de ma grandeur. Pour ne pas te priver de ta part de joie, en te laissant ignorer quelle grandeur sera la tienne. Garde cela dans ton cœur et porte-toi bien.
Une lettre donc de Macbeth à sa femme, une lettre qui évoque les trois sorcières qui sont quand même des personnages qui représentent pratiquement cette tragédie. Bon, c'est pas la seule pièce de Shakespeare où on voit des sorcières, mais là, elles ouvrent la pièce et elles sont particulièrement importantes. Alors, quel est le langage des sorcières? Justement, ça, il me semble que c'est l'une des questions importantes qu'on peut se poser quand on monte Macbeth. Est-ce que ce qu'elles disent est à mettre sur le même plan que le reste? D'où parlent-elles et que profèrent-elles?
La question de comment on traite ces sorcières, qui sont effectivement un élément à la fois emblématique de la pièce et un peu mythique, est vraiment toujours une question. Quand on a fait la traduction, justement, on s'est aperçu que le langage des sorcières est un langage rimé, en vers court. C'est pas le même langage que les autres. Là où on a le vers habituel de le shakespearien, là, c'est plus court, c'est plus rythmique. Ça ressemble un peu à des comptines. Il y a une dimension de comptine presque enfantine dans le langage de ces sorcières. Et moi, justement, ça m'a fait penser que ces sorcières, finalement, qu'est-ce qu'elles font? Elles jouent avec Macbeth. Elles lui prédisent son destin de roi, et puis après, elles le laissent dans ses fantasmes.
C'est intéressant ce que vous dites quand vous parlez de comptine, parce que, à vous entendre, on a l'impression que c'est presque chanté. En tout cas, on est dans une espèce de psalmodie qui fait qu'on quitte le langage parlé pour aller vers un langage dont la prosodie est un peu hallucinée d'une certaine façon.
Oui, en tout cas c'est vrai que c'est des personnages surnaturels. Maintenant, est-ce que Shakespeare croyait vraiment aux sorcières, ça c'est une autre question. On a plutôt l'impression que c'est...
S'il y avait vraiment cru, il n'aurait pas fait de théâtre.
Oui, voilà, c'est ça. C'est les sorcières au fond ce sont des personnages de théâtre. Ce sont les personnages les plus théâtraux, c'est comme si ce sont des personnages du théâtre qui prennent Macbeth, Lady Macbeth et tout ça, qui ont des expériences avec eux et qui vont s'amuser avec eux, comme Shakespeare lui-même s'amuse avec ses personnages. C'est pas un jeu très forcément très amusant. C'est un jeu cruel aussi. Hein. C'est un jeu dur. Il y a beaucoup de violence, de sauvagerie dans cette pièce. Mais en tout cas, j'ai l'impression que les sorcières, c'est un petit peu les petites sœurs de Shakespeare.
On va les écouter d'ailleurs avec un extrait de ce Macbeth.
Montrez que son œil soit ouvert, que son cœur soit baissé. Ombre, venez, ombre, passez.
Tu ressembles trop au spectre de Bambo. Va-t'en, ta couronne brûle mes yeux. Et toi? La chevelure sous l'ordre d'un autre diadème ressemble à celle du premier. Un troisième, pareil aux autres. Sorcière Simone, pourquoi me montrez-vous cela? Un quatrième? Avancez-vous, messieurs! Quoi? Vont-ils ainsi défiler jusqu'au jour du jugement? Un autre encore? Un septième? Je n'en verrai pas plus. Mais pourtant, voici le huitième. Avec un miroir, et qui m'en montre encore bien d'autres, et j'en vois qui tiennent un double globe et un triple cercle. Vision horrible. Je vois à présent que c'est vrai, car voici Porco, tout sanglant, qui me sourit et me montre sa lignée du doigt. Quoi? C'est donc vrai?
Extrait du Chœur des sorcières de Verdi, qui ne fait pas partie, d'ailleurs cette musique n'est pas dans votre mise en scène, Stéphane Brunschweig, et ça suivait un extrait donc de cette mise en scène qu'on peut voir à l'Odéon jusqu'au 10 mars prochain, avec justement ce dialogue, c'est pas vraiment un dialogue d'ailleurs, mais c'est cette intervention des sorcières. Encore une question là-dessus, est-ce que vous avez l'impression, parce que précisément le vers est différent, parce qu'on est dans une sorte de contine, que c'est le langage de la folie qui parle quand on entend les sorcières. Un langage, en tout cas, qui échappe à la langue de la politique qu'on entend dans cette pièce de Macbeth.
Oh, moi, je crois que la folie, elle est dans la politique. les sorcières, elles sont juste dans une autre réalité. Alors, on peut dire que l'autre réalité, c'est la folie, mais je pense qu'il faut pas les prendre tellement au complètement au premier degré. Alors que la folie, elle s'insinue par toutes les pores des personnages à partir du moment où ils sont, eux, les Macbeth et Lady Macbeth, pris dans ce mouvement qui va les porter vers le meurtre. Là, ils sont dans la folie. C'est une folie de tuer, c'est une folie de continuer à tuer, c'est une folie de penser qu'on va pouvoir se maintenir au pouvoir en tuant, et c'est la folie qui les mène jusqu'à la crise de somnambulisme ou de terreur de Lady Macbeth, où lui, retranché dans son bunker à la fin, est en train de se dire qu'il va tuer tout le monde, alors qu'en fait il est abandonné par tout le monde et que tout le monde va venir le chasser. La folie, elle est chez eux.
Alors Stéphane Braunschweig, vous avez évoqué tout à l'heure ce problème de la prosodie dans la traduction. Il est vrai que dans le texte anglais, on a des vers qui sont différents, et de temps en temps, on ne sait pas exactement si on est dans de la prose ou dans du vers. Adama Diop, comment est-ce qu'on se saisit d'un texte comme ça? Est-ce que vous le récitez comme si c'était un texte en vers, ou bien est-ce que vous accentuez sur la prose, ou bien est-ce que vous oscillez entre les deux?
Alors, évidemment, c'est une langue qui est extrêmement belle, donc ce serait dommage de passer à côté des vers, surtout que la traduction de Daniel et Stéphane sont là-dessus, on l'a très, très très belle. Et à la fois, l'enjeu pour un acteur, c'est de rendre ça concret. C'est-à-dire que au-delà des vers et de la poésie, parce qu'ils sont très poétiques, notamment les monologues de Macbeth, c'est vraiment des vers. Donc c'est... Et à la fois, il faut qu'on soit dans l'état émotionnel des personnages. Donc l'enjeu, évidemment, c'est de, tout en ayant cette base de très poétique des vers, rendre ça extrêmement concret et qu'on puisse comprendre les enjeux des personnages pour qu'il n'y ait aucun doute sur où est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils traversent. Donc c'est toute la complexité, je trouve, aussi de jouer le rôle de Macbeth, mais aussi les personnages de Macbeth. Cet enjeu, c'est là. C'est comment être extrêmement concret et faire comprendre l'enjeu des personnages tout en se servant de cette poésie qui est magnifique.
C'est difficile de jouer un texte qui, en effet, comme le rappelait Stéphane Braunschweig, est si difficile à comprendre. Parce que même si on connaît l'histoire, même si on connaît la pièce, c'est difficile de suivre une phrase après l'autre et de comprendre vraiment. Alors, on s'habitue. Au départ, on a l'impression qu'on comprend rien. Et puis au bout d'une scène, au bout d'un acte, on rentre dedans comme on peut s'accoutumer un petit peu à une langue étrangère. Vous qui êtes comédien, est-ce que vous avez ce sentiment que vous servez un texte difficile à comprendre par le spectateur?
Oui, de toute façon, on le sait, Macbeth, c'est une des pièces de Shakespeare, comme vous l'avez dit au début de l'émission, les moins montées. C'est pas Richard III, ni Hamlet. Donc oui, c'est très compliqué. Et au-delà, effectivement, je pense que vous avez raison, c'est comme une langue étrangère. C'est comment d'un coup, l'oreille s'habitue à cette langue-là. Et puis, ce qui est la complexité aussi, c'est de savoir qu'il y a quasi des ellipses après chaque scène dans cette pièce. Donc oui, c'est extrêmement difficile. Et à la fois, je trouve que l'excitation et l'enjeu qu'on a, nous autres artistes, c'est d'attaquer cette chose-là, cette matière presque, on pourrait dire, intouchable, et de dire, tiens, comment nous, on arrive à éclairer ou rééclairer, ou en tout cas injecter ce qu'on est aujourd'hui, parce que la difficulté aussi, c'est de laver justement ce qu'on peut imaginer autour de cette pièce, parce qu'il y a, je pense, beaucoup.
Alors qu'est-ce que vous entendez par laver ce qu'on imagine?
Je pense qu'il y a beaucoup de clichés, notamment que la méchante c'est Lady Macbeth, c'est la sorcière qui manipule son pauvre petit mari, des choses comme ça. Se reposer les questions de qui dit quoi à quel moment. Voilà, par exemple, Macbeth parle du meurtre deux fois avant qu'il retrouve sa femme, donc l'idée du meurtre quand même vient de lui et pas d'elle forcément. Et comment justement construire ce couple qui est extrêmement difficile, parce que je pense que chacun a une idée très précise de ce couple, et nous, notre enjeu, ça a été avec Stéphane, de dire, voilà, comment on a ce duo meurtrier complètement fou, et comment l'un prend le relais là où l'autre faiblit, et ainsi de suite, et ils se construisent comme ça. Donc l'enjeu aussi, et la difficulté, elle est là aussi, c'est doubler tout ce qu'on sait de cette pièce, et repartir comme c'était une écriture nouvelle, quoi.
Vous avez l'impression que c'est un relais diabolique, justement, c'est-à-dire que chacun prend le relais au moment où l'autre faiblit, c'est-à-dire ne tuerait plus.
Oui, il y a un relais diabolique, effectivement, parce que à la lecture de la pièce, en tout cas, il y a quelque chose où lui se dit, tiens, c'est n'importe quoi. On est très très bien. Je viens de remporter la guerre. Je suis voilà au plus haut de ce que je peux être. Profitons de ce moment de grâce qui est voilà et arrêtons nos idées complètement folles d'aller tuer le roi. Elle lui dit non. Être homme, c'est être plus que juste être dans la raison. Nous, on est dans la démesure. Et peut-être qu'aussi quelque part là où dans le une fois qu'il devient roi. Elle pourrait se dire, peut-être profitons, voilà, maintenant qu'on est roi et reine, lui dit non, on n'est pas du tout en sécurité, donc il va falloir aller plus loin. Donc effectivement, il y a un relais de la folie que l'un et l'autre prend en charge, tout à fait.
Stéphane Braunschweig, en tant que metteur en scène, est-ce que vous dirigez beaucoup la diction de vos acteurs ?
Là, ce que je dirige, c'est moins la diction, parce que la diction, c'est un peu technique, et ça, c'est chacun. Oui, quand je comprends pas un mot, je le dis, mais oui. En même temps, je passe pas mon temps à le dire non plus, parce qu'en fait, c'est, parfois, comment dire, quand on comprend pas un mot, c'est que l'acteur, il est pas encore complètement au fait de ce qu'il est en train de jouer. Par contre, ce que je dirige, c'est le phrasé. C'est-à-dire
vous parlez comme un chef d'orchestre.
Oui, c'est plus ça. C'est-à-dire parfois il y a des phrasés qui permettent de comprendre ou pas une phrase. Donc je suis attentif aux phrasés, on va dire.
Donc là aussi, vous dirigez en fonction de votre idée de la prosodie. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un phrasé ? C'est la façon dont une phrase se poursuit elle-même.
Oui, disons que ce sont pas des vers stricts comme des alexandrins. Il y a quelques alexandrins d'ailleurs dans la traduction, mais en gros c'est des vers libres. Donc il faut pas avoir peur d'enjamber le vers. Il faut pas avoir peur
de pas du tout dans une cadence comme dans la tragédie classique française, bien sûr.
Ce qui m'importe, c'est le sens en fait, et le sens. Vous disiez tout à l'heure, le texte est difficile. Il est plus difficile en anglais qu'en français dans cette traduction, parce que le français aide
d'aujourd'hui. Oui, il y a quelques archaïsmes, mais infiniment moins qu'en anglais.
Ce qui est difficile, c'est que il y a des périphrases, on parle par euphémisme, on parle on dit une chose négative pour penser une chose positive. Il y a de l'ironie qui circule tout le temps. C'est tout ça qui est difficile. C'est cette rhétorique de Shakespeare. Et moi, ce que j'essaye, c'est de rendre cette rhétorique le plus concret possible pour que ça avance dans le sens. Donc, parfois, un phrasé empêche, parce qu'on coupe la phrase à un mauvais endroit, ne permet plus de comprendre le sens. Donc voilà, je suis attentif à ce que le sens parvienne.
Oui. Alors, vous parlez de ce qui avance, Stéphane Braunschweig. On va voir justement ce qui avance à la fin de Macbeth, c'est-à-dire la forêt.
Pendant mon tour de garde sur la colline, j'ai tourné les yeux vers Burnham. Et là, il m'a semblé que le bois se mettait à bouger.
Montage ! Chienne !
Déchaînez sur moi vos fureurs si ce n'est pas la vérité. À une lieue, vous pouvez la voir approcher, je vous le dis. Une forêt qui marche.
Si tu me mens, je te fais pendre vivant aux premières armes pour écraser de faim. Et si tu dis vrai, peu m'importe que tu m'en fasses autant. Je bride mon assurance et je commence à craindre que le diable ne m'ait embobiné avec ses vérités de menteur. N'aie pas peur, aussi longtemps que la forêt de Burnham ne marche pas sur Dunsinane. Et voici qu'une forêt marche vers Dunsinane. Aux armes ! Aux armes ! À l'attaque !
On est donc à la fin de cette tragédie de Macbeth, au moment où on est à la fois entre la folie et la tactique, puisque on peut se dire que on est dans le fantastique avec une forêt qui se met en marche, mais qu'en même temps on est peut-être dans la stratégie de l'armée inverse. Là encore, on est à la lisière de la folie. On parle beaucoup de folie, évidemment, dans Macbeth. On parle beaucoup moins de culpabilité. Est-ce que l'une d'une certaine façon tient la place de l'autre?
Oui, parce que la se sentir coupable, c'est déjà accéder à la part de raison. Donc la folie, c'est quand on ne veut pas voir la culpabilité, c'est quand on dénie la culpabilité, c'est quand on rejette hors de soi la faute. C'est quand même ce que fait Macbeth et même Lady Macbeth, parce que Lady Macbeth dans sa crise de somnambulisme très fameuse où elle se lave les mains éternellement comme si les taches de sang ne pouvaient pas partir. C'est dans une crise de somnambulisme, c'est-à-dire que c'est la nuit c'est quand elle dort que sa culpabilité remonte à la surface. Et je crois que cette pièce ne met jamais vraiment en jeu la culpabilité comme le lieu où on finirait de se retrouver ou de revenir sur terre, c'est-à-dire que parce que là les personnages sombreraient complètement dans la mélancolie en fait, et ils se battent.
Vous entendez mélancolie, disons au sens d'une psychologique,
oui,
du
voilà,
terme,
d'une perte complète d'identité. Et ce qui est intéressant, par exemple, dans le dernier acte, là, on voit que Macbeth, il passe son temps à dire qu'il a pas peur. Bon, quelqu'un qui passe son temps à dire qu'il a pas peur, c'est quelqu'un qui a très profondément peur. Mais il rejette cette peur. Il ne veut pas avoir cette peur. Il ne veut pas accepter cette peur. Mais la peur, c'est comme la culpabilité. Parce qu'en fait, la peur, c'est cette culpabilité qui le menace.
Oui, c'est dur ça, à faire passer dans les mots, Adama Diop. Est-ce que vous avez l'impression justement que vous jouez un personnage de fou et non pas de coupable ?
C'est jamais très évident de jouer des personnages de fou. Après, encore une fois, je pense que le pari pour un acteur, c'est d'être concret dans ses enjeux. Effectivement, et puis je pense que c'est plus concret que juste jouer la folie. Jouer la folie pour un acteur, enfin, je veux dire, ça veut rien dire en fait. Par contre, passer d'un état à un autre, ne plus accéder à la raison, donc ne plus se dire voilà, ainsi de suite. Ça, oui, c'est une sorte de chose qui permet d'accéder à une folie, mais sans qu'on le prenne en charge en disant je vais jouer la folie. Mais c'est juste voilà, passer d'un état à l'autre, d'une pensée à une autre, d'un avis à un autre, et voilà. Puis après, c'est les partenaires aussi qui aident à ça.
Merci bien Adama Diop et merci Stéphane Braunschweig d'être venu nous parler donc de ce Macbeth qui est monté à l'Odéon à Paris en ce moment et qu'on peut voir jusqu'au 10 mars, dont vous nous avez parlé dans cette Danse des mots qui est une émission proposée par le réseau Canopé et par RFI. Véronique Durand, Lucie Bouteloup, Yvan